Bonjour à tous, il est 11h ici à Paris, 13h à Doha. Bienvenue dans ce journal.
Karine Bellicha.
Sommaire de cette édition, le Qatar jette l'éponge. Doha invoque le manque de bonne volonté des belligérants pour parvenir à un accord entre Israël et le Hamas. Un retrait d'un des trois pays négociateurs qui n'est toutefois peut-être pas définitif, nous dira Michel Paul à Jérusalem. En France, faire avancer les discussions en Nouvelle-Calédonie, telle est la délicate mission des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. En déplacement dans l'île à partir d'aujourd'hui, le calme est revenu, mais l'impasse perdure après la contestation de la réforme du corps électoral. Enfin, c'est le jour J pour les skippers du Vendée Globe. Dans 2 heures maintenant, 40 monocoques quitteront les Sables d'Olonne pour plus de 2 mois et demi de course en solitaire, sans escale, sans assistance, une prouesse sportive pour tous. Davantage encore pour les 2 marins handisport. Thomas de Saint-Léger a rencontré l'un d'entre eux, Damien Seguin. Reportage à suivre. Une trêve semble encore s'éloigner au Proche-Orient. Hier, le Qatar a annoncé son retrait. Le pays était en première ligne depuis des mois avec les États-Unis et l'Égypte pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza contre la libération d'otages israéliens. Doha prévient, il n'y aura pas de négociation tant que les deux parties ne feront pas preuve de bonne volonté et de sérieux. Mais la décision du Qatar n'est peut-être pas définitive. À Jérusalem, Michel Paul.
Au sein de la coalition gouvernementale israélienne et en particulier à son extrême droite, on se félicite de la décision du Qatar. Il s'agit d'un développement qui, estime-t-on, peut avoir un impact majeur sur le conflit à Gaza et dans la région tout entière. Mais ce matin, les commentateurs soulignent que la décision de Doha est toujours réversible. En d'autres termes, Qatar n'a pas totalement retiré son épingle du jeu. Les Qatariens ont lâché du lest à la demande de l'administration Biden, mais il reste à voir si les dirigeants du Hamas vont effectivement devoir quitter la capitale du Qatar pour une nouvelle destination. Le but de l'opération est de promouvoir un accord qui permette la libération d'un certain nombre d'otages, notamment ceux qui détiennent également la nationalité américaine. Plusieurs médias en Israël soulignent que les responsables israéliens ne fléchiront pas leur position avant l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Et en attendant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou propose une nouvelle approche, offrir 5 millions de dollars pour chaque otage libéré et permettre aux ravisseurs de se réfugier dans un pays tiers. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et sur le terrain, la guerre se poursuit donc à Gaza. Une nouvelle fois, la défense civile fait état de raids meurtriers. 25 personnes, dont 13 enfants, ont été tuées dans une frappe israélienne dans le nord de la bande de Gaza, à Jabalia. Un autre bombardement a fait 5 morts et des disparus à Gazaville. Et au Liban, ce matin, une frappe israélienne a fait au moins 12 morts au nord de Beyrouth. Les Espagnols demandent des comptes aux cris d'assassins. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue hier soir pour crier leur colère. Plus de 10 jours après les terribles inondations dans le sud-est du pays, d'immenses rassemblements ont eu lieu dans plusieurs communes. À Valence, les habitants ont notamment exigé la démission du président de la région, Carlos Mazón, mais aussi celle du Premier ministre, Pedro Sánchez. Les autorités locales et nationales sont accusées d'avoir sous-estimé les risques, tardé pour lancer l'alerte et mal coordonner les secours. En France, une délégation entame aujourd'hui une visite de 5 jours en Nouvelle-Calédonie, l'île au large de l'Australie, a retrouvé le calme après des tensions insurrectionnelles provoquées par le vote à Paris de la réforme du corps électoral. Mais le dialogue politique est toujours aussi difficile. La présidente de l'Assemblée nationale et son homologue du Sénat resteront 5 jours en Nouvelle-Calédonie avant la visite annoncée du Premier ministre. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont un objectif, replacer l'État à la table des négociations après des mois de crise. Aurélien de Vernoy.
Ils viennent pour mettre le couvert avant la véritable reprise des négociations, explique le député insoumis Bastien Lachaud. Car la table est désertée depuis des mois et il faut faire revenir les convives dans un cadre de négociations, quitte à innover, a expliqué Gérard Larcher au groupe de contact du Sénat sur la Nouvelle-Calédonie. Le président de la Chambre haute souhaite que toutes les options soient envisagées y compris si elles sont inédites. Pour la sénatrice socialiste Corinne Narasiguin, les accords de Nouméa sont en effet dépassés. Il faut donc trouver un nouveau terrain d'entente et le Parlement aura forcément un rôle central avec un nécessaire projet de loi constitutionnelle en bout de discussion. Mais pour l'instant, le cadre est très bancal, s'inquiète Bastien Lachaud. Les élections provinciales ont certes été reportées, mais au plus tard, au mois de novembre 2025. Or, les négociations sur le corps électoral sont au point mort et selon le député LFI, il faut au moins 6 mois entre un accord et un scrutin. Sans compter l'épineux et urgent débat sur la reconstruction après les affrontements des derniers mois. Bref, il faut à la fois aller vite, mais sans brusquer les différentes parties. Une mission dont la responsabilité finale incombe à Michel Barnier, Matignon ayant officiellement repris le contrôle du dossier.
Direction à présent la Côte d'Ivoire, où plusieurs vendeuses de rue guinéennes accusent des policiers municipaux de les avoir violemment agressées à Abidjan. 5 plaintes ont été déposées. L'affaire intervient alors que le commerce ambulant est interdit sur les grandes artères du district. Tout est parti d'une vidéo virale. Après un passage à tabac, l'une des plaignantes y expose son dos, ses fesses et ses cuisses recouvertes de larges ecchymoses. Un incident tel que la diplomatie guinéenne a réclamé des explications. Notre correspondant Benoît Almeras a recueilli le témoignage de la victime, encore très choquée par tant de violence.
Son visage se crispe encore de douleur. Véronique a 32 ans, elle raconte son histoire. Il y a 3 semaines, des agents en noir l'arrêtent sur la route de l'aéroport avec d'autres vendeurs de rue.
Ils ont commencé à nous frapper, maltraiter là. Ils ont rassé nos sacs, mon portable, tout.
La mère de famille est conduite dans un local. Là, un homme non identifié la déshabille de force avant de la tabasser.
Il était masqué. Je ne connais même pas cette, quelle personne qui me faisait ça. Ils ont maltraité. L'homme, tu ne connais pas là, il ne te connaît pas. Et puis...
Véronique s'évanouit, ses proches parviennent à la secourir et filment ses blessures.
Trop, c'est trop, à nous c'est trop fait, mais ça là c'est débordé.
Face au choc, l'ambassadeur de Guinée appelle les victimes comme Véronique à déposer plainte. Depuis, Gérard Lecadou de l'association ivoiro-guinéenne ABA Afrique aide les plaignantes.
Et nous attendons le résultat des enquêtes pour démontrer qu'il n'y a pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Des femmes qui sont déjà assez vulnérables, elles ne méritaient pas ce traitement.
Joint par RFI, le ministère de l'Intérieur dit attendre les conclusions de l'enquête. L'ambassade de Guinée, elle, délivre des cartes consulaires pour ses ressortissantes. Une protection juridique pour les vendeuses à la sauvette. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Dans l'océan Indien, au large de Madagascar, l'île Maurice vote aujourd'hui. Des élections législatives après une campagne tendue et des informations de presse évoquant de possibles fraudes électorales. Des policiers sont déployés dans les bureaux de vote pour assurer la sécurité. Plus de 2 mois et demi en mer attendent les skippers du Vendée Globe. 40 marins, c'est un record, prennent le large aujourd'hui au départ des Sables d'Olonne, dans l'ouest de la France, pour un nouveau périple en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance, devant des centaines de milliers de spectateurs le long du fameux chenal. 40 aventuriers, 34 hommes et 6 femmes, et parmi eux, 2 athlètes handisport, privés de leur avant-bras gauche, dont le français Damien Seguin, ancien double médaillé d'or aux Jeux paralympiques. À 45 ans, c'est sa 2e participation au Vendée Globe. Thomas de Saint-Léger l'a rencontré.
Entre ces deux-là, c'est une longue histoire. Adversaire aux Jeux paralympiques 2008, adversaire encore aujourd'hui, mes complices avant tout.
On a fait cette fameuse photo avec la mascotte du Vendée Globe, donc qui est un manchot. On a tagué voilà, les 3 manchots du Vendée Globe. Alors c'est ça aussi le handicap, il faut savoir à des moments le porter en dérision pour que ça devienne un peu plus banal.
Banal, Damien Seguin ne le sera jamais totalement, né sans main gauche, simplement aidé d'une prothèse sur mesure. Il est devenu en 2021 le premier marin handisport à boucler le Vendée Globe. Un véritable exploit. À bord, les manœuvres sont techniques, physiques, les conditions parfois très instables. Et pour lui, tout est plus compliqué.
Forcément, je ne fais pas les manœuvres avec une main de même façon qu'un autre skipper qui a ses 2 mains. C'est compliqué de répondre à la question comment je fais, parce que finalement absolument tout est différent, de la façon dont je vais mettre cette chaussure jusqu'à aborder une voile sur un imoca qui fait 20 mètres de long. Le fait est que j'y arrive et que j'ai prouvé que en plus d'y arriver, j'arrivais à être performant.
7e de son premier Vendée Globe, Damien Seguin vise encore plus haut cette année. Ici, pas de catégorie, pas de classement à part. Les 2 marins Andy sont dans la même course que les autres et ils sont pris très au sérieux. Louis Burton, l'un des favoris.
Je suis très admiratif et je pense qu'ils ont un petit supplément mental qui les rend redoutables en termes de performance.
Thomas de Saint-Léger, Les Sables d'Olonne, RFI.
Et le départ sera donné à 13h02, heure de Paris. Merci d'écouter RFI.